Le débrief éco, le débat sur l'actualité économique de la semaine en partenariat avec le Cercle des économistes. Bonsoir Aurélie Trouvé.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole d'Attac France. Bonsoir Christian Saint-Etienne.
Bonsoir.
Membre du Cercle des économistes, les négociations sur l'assurance chômage sont bloquées depuis cette semaine à propos toujours du bonus-malus sur les contrats courts, c'est-à-dire sur les CDD de moins d'un mois. Les syndicats ont même posé un ultimatum au patronat. Ce dernier a jusqu'à mardi pour faire une proposition en ce sens, sinon les syndicats ne se rendront pas à la réunion décisive de mercredi. Pour ouvrir le débat, écoutons si vous le voulez bien Marie-Lise Léon, elle est négociatrice pour la CFDT.
On n'a pas claqué la porte, ni les syndicats ni les organisations patronales. Néanmoins, la négociation est totalement bloquée et on a acté qu'il n'y aurait des blocages que si le patronat venait avec une proposition de modulation des cotisations, c'est-à-dire une forme de bonus-malus, quelle qu'elle soit. La balle est dans leur camp. On aura le verdict mardi prochain et on verra si le patronat est en capacité de prendre ses responsabilités, tout simplement pour lutter contre les contrats courts qui concernent une grande partie des travailleurs en situation précaire.
Christian Saint-Etienne, est-ce que le patronat a intérêt à accepter ce système de bonus-malus ?
C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'abord, le contrat ultra court qui se généralise d'une journée, deux journées, trois journées, c'est le fait de quelques branches, notamment l'hôtellerie-restauration ou les sondages, donc des activités ultra ponctuelles où on signe des contrats extrêmement courts. Donc, en dehors de ces branches spécifiques, ce qui domine très très largement, c'est le CDI, Dieu merci. C'est, de mémoire, si je ne dis pas de sottises, 77% des salariés qui sont en CDI. Donc, et ça baisse très peu en dépit de la digitalisation de l'économie. Mais donc, on a un problème spécifique. Alors, comment le résoudre ? Est-ce que c'est par le bonus-malus ? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres possibilités ? De même qu'il y a un CDI intérimaire, pourrait-on imaginer des CDI spécifiques à ces secteurs où on emploie presque à la tâche ? Voilà, mais c'est une question complexe. Visiblement, les syndicats patronaux et de travailleurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je pense qu'à un moment donné, malheureusement, le gouvernement devra trancher, mais même si je pense que ce n'est pas la bonne solution, l'idéal, ça serait quand même qu'il y ait un accord entre les deux parties.
En tout cas, là, les syndicats semblent y tenir à ce système de bonus-malus, Aurélie Trouvé.
Oui, ils y tiennent. Alors, il est vrai que ces contrats sont concentrés en fait sur une partie de la population qui multiplie en fait ces 10 contrats courts. Hein. Et en fait, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a une hausse très forte des embauches en CDD tout de même. Hein. C'est aujourd'hui 87% des embauches en CDD et beaucoup, une partie en tout cas importante, sur des contrats d'un jour. Et bien souvent par le même employeur. Alors moi j'ai envie de dire oui, le bonus-malus c'est quelque part la moindre des choses, hein, mais ça passe aussi par d'autres choses. Et là on voit la schizophrénie entre guillemets, ou en tout cas la contradiction ou le double discours d'un gouvernement qui prolonge ce qu'ont fait les gouvernements précédents, notamment à travers la loi travail, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a dans le code du travail, il y a eu un affaiblissement du code du travail. Il y a le fait aussi de continuer à promouvoir des CDD comme les CDD d'usage qui permettent de multiplier, en tout cas sur ce créneau de la population, beaucoup de contrats très précaires. Donc quelque part, le problème, il est aussi, je dirais ailleurs. Il peut y avoir le bonus-malus qui permettra d'inciter les entreprises à utiliser moins les CDD, mais il y a aussi quand même un renforcement du code du travail, ce qui irait à l'encontre de toutes les réformes là depuis des années qui visent au contraire à précariser le travail.
Est-ce que finalement les syndicats ne cherchent pas un peu à forcer Emmanuel Macron à, une bonne fois pour toutes, s'opposer au patronat, puisque depuis le début de son mandat, il va plutôt dans le sens des patrons et des entreprises, Christian Saint-Etienne ?
Je ne sais pas si Macron va dans le sens des entreprises. Il peut donner l'impression. Le point clé, c'est qu'on a un terrible affaiblissement du secteur productif français depuis 20 ans. C'est ça le problème général et qu'il faut qu'on traite ensemble parce que nous avons un taux d'emploi qui est très très faible dans la population de 15 à 65 ans. Si je ne dis pas de sottises, on doit être à 65-66% de population qui travaille quand les Allemands sont 10 points de plus. C'est ça qui pourrit tout le système puisque pour faire simple, par rapport à une population donnée de 65 millions sur la métropole, il nous manque 3 millions d'emplois. Quoi. Donc après, c'est tous les problèmes dans les banlieues et tout le reste. Donc je trouve dommage qu'on en arrive à un point de blocage sur ce sujet, mais encore une fois, il est complexe. Imaginez un traiteur qui obtient une soirée. Il a besoin de 10 serveurs. Il va leur signer un contrat d'un jour. Voilà, c'est ça les contrats d'un jour. Hein. C'est pas des employeurs tarés qui font des contrats d'un jour parce que ça les amuserait. C'est le traiteur qui a obtenu une soirée. Il ne sait pas s'il y en aura une autre, ainsi de suite. Donc les propositions qui ont été faites, c'était que ces gens-là passent par des plateformes éventuellement ou par des CDI intérimaires. Les syndicats sont réticents, mais je comprends, hein, c'est complexe, mais il faut vraiment qu'on avance parce que on peut pas, ça serait stupide d'interdire d'employer les gens pour un jour quand le boulot est pour un jour, et parce que souvent ce sont des gens qui l'un dans l'autre arrivent à bosser.
Il n'est pas question de les interdire, il est question simplement de faire payer ces entreprises.
Non, mais quelque part de les interdire au moins moralement en disant que c'est dégueulasse pour faire simple. Ces gens-là peuvent avoir 150, une personne peut avoir 150 contrats d'un jour dans une année, mais on voit bien que c'est pas satisfaisant puisque le problème c'est qu'est-ce qu'ils font dans les jours où ils n'ont pas de contrat. C'est pour ça que l'idée de trouver quelque chose comme le CDI intérimaire qui ferait qu'on vous embaucherait pour 150 jours dans l'année et puis on vous dirait au jour le jour où c'est, dans la mesure
où... Ce serait un peu officialiser la précarité, alors, on va les trouver
Pas forcément.
Il faut quand même rappeler qu'il y a aussi des grandes entreprises qui sont dans l'illégalité. La Poste, par exemple, avait été dans l'illégalité en multipliant justement des contrats précaires. Parce qu'il faut savoir que normalement, les CDI, c'est quand même fortement encadré. Seulement, il y a une partie des entreprises qui sont dans l'illégalité. Il y a un manque de contrôle, il y a un manque de sanctions lourdes. Et il y a le fait, on l'a dit, que petit à petit, on a autorisé des contrats comme les CDD d'usage qui augmentent la précarité. Et je voudrais quand même dire un mot sur l'esprit général de cette réforme de l'assurance chômage. Parce qu'au départ, pourquoi le gouvernement veut une nouvelle réforme d'assurance chômage? Pour faire encore des économies. Hein. Et il l'a dit dès le départ. Et la question, c'est comment on fait ces économies? Et pour le coup, il y a aussi des propositions dans la lettre de cadrage du gouvernement de diminution des droits des chômeurs qui d'ailleurs font suite à d'autres réformes dans les années précédentes qui sont attaqués aux droits des intérimaires ou aux droits des intermittents. Et là, ça va se poursuivre parce que, par exemple, il est demandé de remettre en cause les droits, les fameux droits rechargeables ou une baisse des indemnités pour ceux qui ont plusieurs employeurs comme les assistantes maternelles, qui sont d'ailleurs mobilisées aujourd'hui. Donc il faut bien voir que cette réforme de l'assurance chômage de la part du gouvernement, c'est d'abord et avant tout une attaque, encore une fois, des droits des chômeurs.
Aurélie Trouvé, Christian Saint-Etienne, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du débrief éco.
France Info, le débrief éco avec Serre France, conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur serrefrance.fr.
Cette réforme concernera 5,5 millions de personnes. Les fonctionnaires, la réforme de la fonction publique leur a été présentée cette semaine. 8 organisations syndicales n'ont pas attendu de voir ce texte pour en demander le report. Elles ont écrit cette semaine au Premier ministre pour lui demander de repousser la présentation du projet de loi de transformation de la fonction publique en Conseil des ministres. Édouard Philippe doit-il leur donner les raisons pour lancer le débat? Écoutons Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction publique.
Éventuellement, on nous dit que peut-être une partie pourrait être renvoyée au grand dossier des retraites, parce que, évidemment, le système de rémunération avec les primes, le calcul des retraites, mais ça, c'est pas du tout, c'est un report de quelques semaines, c'est pas du tout un report sur le fond. Et sur tous les autres axes, je ne vois pas du tout que le gouvernement entende ce qu'on lui dit. Non, moi, je crois vraiment, sincèrement, sans se payer de mots, ce projet de loi tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, c'est véritablement un recul inédit et une remise en cause du socle sur lequel la France vit, bon gré mal gré, depuis la libération en France. C'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui au regard du projet de loi tel que nous le connaissons.
Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France. En pleine crise des Gilets jaunes, faut-il repousser ce texte?
Bah, certainement, mais le problème, c'est surtout l'esprit plus général de ce gouvernement. Et en fait, ça s'inscrit, cette loi, dans un vaste projet d'affaiblissement de la fonction publique, et lui-même dans un projet encore plus important d'Emmanuel Macron, qui est de pousser encore davantage le néolibéralisme économique. Ça passe, je rappelle les caps gouvernementaux. Un, la baisse des dépenses publiques dans la richesse nationale, hein, une baisse quand même relativement forte. Ça passe par une baisse des dépenses des collectivités locales, donc des services de proximité, les crèches, les centres de loisirs, dire, etc. Et puis, les dépenses détail des administrations publiques. Concrètement, sur le budget 2019, c'est une baisse sèche du budget des hôpitaux publics, par exemple, qui ne sont quand même pas dans un super état. C'est la baisse, c'est une suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires d'ici 2022. C'est le gel du point d'indice qui vient d'être réaffirmé. Ça veut dire clairement une
Donc
baisse...
Donc vous dites qu'il faut leur pousser, mais il faudrait baisse, surtout leur toquer, même carrément,
voilà,
ce texte.
Une baisse du salaire réel des fonctionnaires, hein, qui pourtant ont des salaires, je le rappelle quand même, à responsabilité égale bien moindre que dans le privé. Hein. Il faut quand même rappeler qu'un instit, par exemple, commence à 1500-1600 net. Hein, c'est quand même pas même... Et un enseignant-chercheur, moi j'en suis une, je peux vous dire qu'on commence à 1008 net avec un bac plus 9. Et puis, pour finir, cette fameuse modernisation... de la fonction publique qui passe en fait par une précarisation et une remise en cause du statut du fonctionnaire.
Christian Saint-Étienne du Cercle des économistes, franchement, il faudrait plutôt attendre la fin du grand débat national puisqu'on a vu avec cette crise des Gilets jaunes que ça montre également le retrait des services publics. Et là, on a un texte qui veut revoir toute la fonction publique, supprimer des postes. Le message serait peut-être mal compris, non ?
Non, je pense qu'il y a une confusion d'objectifs et de discussions. Je pense que la réforme de la sphère publique et les services publics sur les territoires lointains ou oubliés, ce sont deux sujets différents. Et si la réforme de la fonction publique était bien menée, on pourrait même imaginer que ça améliore les services publics sur les territoires lointains. Là, au fond, la Poste avait donné l'exemple. Elle avait un problème qui était de conserver 18 000 points de contact tout en évitant des surcoûts liés à l'ouverture permanente. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a gardé de l'ordre de 10 000 points ouverts en permanence et sinon, elle a même des bus qui se promènent ou des bureaux de poste qui sont ouverts un jour. Voilà. Donc, il y a eu des évolutions. Donc, la question, c'est est-ce que dans la fonction publique, on peut avoir des avancées ? Et quel est le problème central ? Personne n'est contre, sauf idéologie particulière, personne n'est contre un État fort et efficace. La question centrale en France, c'est celle de l'efficacité. Voilà, nous avons une dépense publique à 56 points de PIB. Okay. Si nous avions en contrepartie de ces 56 points de PIB le meilleur système de formation au monde, la sécurité totale partout et pas de chômage, moi je trouverais que c'est très bien, ça serait un système même enviable. Le problème en France...
Vous dites que ce n'est plus viable aujourd'hui.
Le problème, c'est 56 points de dépenses publiques, avec 20% des jeunes qui sortent sans formation ou sans diplôme, une insécurité croissante, un taux de chômage qui ne baisse pas. Donc ça veut dire que l'argent est mal dépensé et qu'on doit faire évoluer le système. Alors, je ne veux pas me retrouver dans la position de défendre le texte du gouvernement parce que c'est pas mon job. Par ailleurs, je critique le gouvernement sur des erreurs centrales qui ont été justement de pas mettre le paquet sur la réindustrialisation du pays. Donc, je ne vais pas défendre le texte par principe. Ceci étant, je note que dans ce texte, il y a des choses qui ne sont pas scandaleuses. Par exemple, favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques. Par exemple, simplifier les instances... représentatif du personnel. Bon, il y en a 40 000 aujourd'hui, on peut en faire un peu moins. Également, harmoniser le temps de travail dans beaucoup de secteurs publics, c'est 1607 heures, mais dans beaucoup de collectivités locales, c'est 50-70 heures de moins. Donc, que le gouvernement essaye d'aller dans cette direction, ce n'est pas critiquable. Mais au fond, c'est Le gouvernement travaille sur une niche et je ne le vois pas travailler sur l'ensemble du sujet qui est de relancer le système économique de notre pays, comme je le disais tout à l'heure en introduction.
On va devoir malheureusement déjà conclure ce débat. Merci à tous les deux. Christian Saint-Étienne, je rappelle que vous êtes membre du Cercle des économistes. Et Aurélie Trouvé, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, porte-parole d'Attaque France. Merci, c'était le Débrief Éco en partenariat donc avec le Cercle des économistes.